Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Peut-être un communiqué final de compromis sur le commerce au G7 à la Malbaie au Canada, peut-être. Rien, en revanche, s'agissant du climat, refus catégorique de Donald Trump de faire figurer dans un hypothétique communiqué final l'accord de Paris. Reportage dans cette édition auprès des militants Les Républicains. Le parti vit son printemps ce week-end, un printemps un peu trop identitaire. Un tract distribué à plus d'un million d'exemplaires fait polémique. Et puis dans une note destinée à rester confidentielle, les trois économistes qui ont charpenté le programme du candidat Emmanuel Macron l'invitent à redresser la barre trop à droite à leurs yeux. Précision de Manuel Ruffez. Le G7 se boucle à 6 sans Donald Trump qui a quitté les lieux il y a une bonne heure en choisissant de ne pas prendre part aux discussions sur le climat. Message très clair. Pour le reste, tout va très bien. À en croire le président américain, tout s'est bien passé. Isabelle Labéry, vous suivez pour nous le G7 à la Malbaie au Canada. Isabelle, les États-Unis, insensibles aux argumentaires de la France et des autres, seraient toujours sur la même ligne.
C'est un peu la carotte et le bâton, sans rien renier de ses positions, expliquant à longueur de propos que les États-Unis ne peuvent plus être exploités comme ils le sont depuis des décennies, en raison d'accords commerciaux injustes. Donald Trump assure que le sommet a été un grand succès et les débats avec ses partenaires pas du tout conflictuels.
We have a great relationship.
On a une super relation. Angela, Emmanuel, sur une échelle de 0 à 10, je mettrai la note de 10. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis d'accord avec ce qu'ils font. Et ils le savent très bien. L'Union européenne, par exemple, est brutale avec les États-Unis. Ils en ont conscience. Mais on va régler cette situation. Et si on n'y arrive pas, eh bien on ne pourra plus faire de commerce avec ces pays.
Selon l'Élysée, les négociations pourraient toutefois aboutir ce soir à un texte de compromis appelant à la modernisation de l'Organisation mondiale du commerce pour satisfaire la délégation américaine.
Les présidents russes et ukrainiens trouvent un modus vivendi et lors d'un échange téléphonique évoquent un échange justement de prisonniers politiques. Des représentants des droits de l'homme des deux pays visiteront les détenus, parmi lesquels Oleg Sentsov, en grève de la faim depuis plus de 3 semaines dans une prison du Grand Nord en Russie où il purge une peine de 20 ans de prison pour terrorisme et trafic d'armes. Au Nicaragua, le pouvoir ne semble pas tenir cas de la médiation de l'Église. L'Église a proposé au couple présidentiel d'œuvrer à une sortie de crise. Il faut, selon l'Église, reprendre langue avec l'opposition. 134 morts depuis le 18 avril dernier. 2 mois de crise politique et sociale. Le pays est au bord du gouffre. Qui plus est depuis que le Venezuela n'est plus comme avant son ami et voisin. C'est l'approche du géographe Alain Musset, joint au téléphone par Nadine Epstein.
La situation actuelle de crise au Nicaragua s'explique pour des raisons à la fois structurelles et conjoncturelles. Il y a une mise en place d'un pouvoir qui devient omniprésent et qui rappelle à beaucoup le pouvoir de la dynastie Somoza, contre laquelle d'ailleurs le Front Sandiniste de Libération Nationale s'était insurgé avec la victoire, le triomphe de la révolution en 1979. Et puis, il y a le conjoncturel. Ça a été cette reprise en main des secteurs sociaux, de la baisse des retraites, qui a été une sorte de déclencheur et qui s'explique en grande partie parce que, en fait, le Nicaragua était soutenu par son grand allié vénézuélien. Et comme le pétrole a chuté, comme Chavez a disparu, maintenant c'est Maduro. Maduro ne peut plus aider ses alliés. Et donc, la manne qui venait du Venezuela a disparu. Et ce qui permettait de faire tenir l'économie nicaraguayenne, eh bien, ça s'est effondré et on a les résultats. Le pouvoir de Managua, c'est-à-dire, en fait, Daniel Ortega et sa femme, s'accrochent au pouvoir parce qu'ils savent que, maintenant, à partir du moment où, enfin, les frontières ont été franchies, les gens sont allés dans la rue pour protester, il n'y a plus beaucoup d'autres manières de les tenir. Et la seule manière qu'ils ont trouvée, c'était la violence, une violence très forte, par la police, par l'armée. Mais l'armée a fini par se dégager, à dire qu'elle ne voulait plus participer au maintien de l'ordre, que ce n'était pas son travail, mais aussi et surtout par des groupes paramilitaires qui obéissent directement au président et à la vice-présidente pour réprimer et pour tuer les gens qui s'opposent au pouvoir en place.
Quelques heures avant d'accepter le principe d'un cessez-le-feu de 3 jours pour le Ramadan, les talibans afghans mènent 2 offensives d'envergure à Kunduz dans le nord et à Herat dans l'ouest du pays. 36 morts parmi les forces de sécurité afghanes. Il est 18h05, vous écoutez le journal de France Culture. Pour que la France reste la France, le titre d'un tract destiné aux militants et sympathisants LR a le mérite d'alimenter bien des commentaires. En ce printemps des Républicains, le leader LR Laurent Wauquiez a dit ce matin assumer ce titre quand ses détracteurs l'accusent d'avoir trempé sa plume dans l'encrier de l'ex-FN devenu Rassemblement National. Les militants se sont déployés sur les marchés et dans les rues de la capitale. Bonsoir Sarah Petitbon.
Bonsoir Mathieu.
Sarah, vous êtes partie justement à leur rencontre.
Oui, je me suis rendue sur des marchés du 16e et 15e arrondissement des territoires parisiens classés à droite. Mais dans ces deux arrondissements, pas de trace du tract qui fait tant polémique. À la place, c'est un autre dépliant qui était distribué aux passants.
Bonjour monsieur, c'est un sujet qui intéresse les citoyens. Nous voudrions avoir Paris enfin propre. Si vous en avez marre des mégots.
Un tract pour plus de propreté, donc, mais surtout contre la maire de Paris, m'explique Martine, dynamique militante LR du 16e arrondissement.
Au sujet de la propreté, ça fait des années qu'on en parle, des années qu'on se bat. On ne va pas dire qu'on regrette Bertrand Delanoë, mais Hidalgo, on n'en peut plus. Les gens n'en veulent plus. Ça, c'est terminé.
Et lorsqu'on demande aux militants ou aux élus de ces arrondissements pourquoi c'est ce tract-là qui a été privilégié aujourd'hui, la même version officielle fuse qui pourrait se résumer à une simple question d'agenda. C'est en tout cas la raison invoquée par Julie Boileau, elle est conseillère de Paris du 16e.
À Paris, oui, on a fait le choix d'avoir le tract propreté, tout simplement une question de timing. On a travaillé, nous, sur la propreté, c'est un sujet qui intéresse au premier chef les Parisiens. Et ce tract-là, clairement, si nous avions fait le choix, alors qu'il était tiré, de le retarder et de ne le tracter qu'en septembre, perdait de sa valeur, puisque nous nous appuyons sur des travaux qui ont été faits par notre groupe à l'Hôtel de Ville. Donc c'est un choix aussi simple que ça. Le tract des Républicains, là, vous inquiétez pas, il est à la Fédération, il est dans les cartons, et on le sortira en temps voulu pour aller sur les marchés.
Pourtant, hors micro, sur ces mêmes marchés, des militants confient se sentir mal à l'aise concernant le tract en question. Malaise ressenti vis-à-vis des thématiques abordées, immigration, terrorisme, communautarisme. D'autres avouent tout bonnement n'en avoir pas entendu parler. Le document a pourtant été distribué dans toutes les fédérations de France à hauteur d'1,5 million d'exemplaires. D'autres opérations de tractage doivent encore se tenir demain sur les marchés parisiens.
Merci à vous Sarah Petitbon. Le fléau de la balance pencherait à droite, donnant l'image, je cite, d'un pouvoir indifférent à la question sociale. Fin de citation. Le journal Le Monde s'est procuré une note confidentielle qui aurait atterri sur le bureau du chef de l'État il y a une semaine. Une note dont les auteurs sont clairement critiques à l'égard des choix et orientations d'Emmanuel Macron. Le titre de cette note, renforcer la dimension émancipatrice de l'action gouvernementale. Manuel Ruffès, ses auteurs, Philippe Aguillon, Philippe Martin et Jean Pisani-Ferry, selon eux, le chef de l'État aurait la mémoire courte.
Ils ont inspiré le programme du candidat Macron, mais aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas dans les mesures mises en application par le président Macron. Leur modèle, explique-t-il, c'est le modèle scandinave, pas le modèle anglo-saxon. En clair, c'est la flexi-sécurité tamponnée depuis le début, libérer l'économie, mais dans le même temps, protéger davantage. Et là, c'est leur constat, ce second volet, le volet social, tarde à voir le jour. Il y a bien eu, ils le reconnaissent, ces trois économistes, et c'est significatif, disent-ils, le dédoublement des classes de CP dans les quartiers défavorisés, le lancement des emplois francs et les réformes de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Mais ils sont déçus par la réforme de l'assurance chômage qui aurait dû ouvrir des droits à un public plus large. Ils affirment d'une même voix qu'il ne faut surtout pas toucher à la prime d'activité. Et puis ils avancent des mesures qui pourraient permettre de changer le cap. Un malus sur les contrats courts, faire entrer plus de représentants des salariés dans les conseils d'administration, revoir les aides aux entreprises. Ou encore, et le message est très symbolique, une taxation plus lourde des très grosses successions et même revenir sur la promesse de supprimer la taxe d'habitation pour les 20% les plus aisés. Bref, en gros, il s'agit de pousser la barre un peu plus à gauche.
Manuel Ruffès, l'avocat et militant des droits de l'homme Gérard Boulanger, décédé hier à l'âge de 69 ans. C'est lui qui avait déposé les premières plaintes contre Maurice Papon pour complicité de crimes contre l'humanité. Il fallut 15 ans de procédure pour envoyer Maurice Papon devant les assises de la Gironde, où un procès hors norme de 6 mois s'était déroulé. Durant ce procès, Gérard Boulanger avait défendu une majorité des parties civiles. Quelques mots de la météo de demain, dimanche, encore des orages. 26 départements placés en vigilance orange, 26 de la Bretagne à l'Île-de-France et au centre, auquel il faut ajouter 7 départements du sud-ouest. Température minimale comprise demain matin entre 13 et 17 degrés. Cette édition a été préparée avec Julien Loquet, à la technique Bruno Gagnère-Fontanil.